La revue, si on essaie de la définir SSI, les premiers qualificatifs qui viennent à l'esprit sont les suivants. Une revue généraliste, une revue interdisciplinaire, une revue innovatrice, une revue originale. Et c'est cela qu'elle a essayé de maintenir pendant les 5 dernières décennies. Au début, avec le soutien de la 6e section de l'École pratique des hautes études, le contrat de la revue va être de publier des contributions fondatrices d'auteurs qui commencent à émerger et qui deviendront ensuite extrêmement connus. Je peux donner pour exemple Luc Boltanski, Pierre Bourdieu, Richard Dawkins sur la scène anglaise, extrêmement célèbre, devenu extrêmement célèbre depuis, Foucault, Irving Goffman, Bruno Latour, Melucci, Tachfel, Laurent Thévenot et Alain Touraine. Donc des chercheurs qui, dans les décennies suivantes, vont s'avérer être des chercheurs véritablement de pointe, de poids et de pointe. Donc ça, c'est la première tendance de la revue. C'est à ses tout débuts quand LR lui donne le soutien de la 6e section. Lorsque Clemens Heller devient administrateur adjoint puis administrateur de la MSH, il va donner une deuxième orientation à SSI. Cette orientation, ça va être de publier des recherches novatrices dans des champs disciplinaires qui sont absolument pas défrichés, à l'époque. Alors, il va en particulier s'attacher à promouvoir le travail des jeunes chercheurs, étant en cela en adéquation parfaite avec l'idée que de la MSH de l'époque, qui est d'être l'incubateur de recherches novatrices en sciences sociales. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est en fait la rubrique Biologie et Sciences Sociales, Biology and Social Science, qui s'est d'abord appelée Human and Animal Ethology, éthologie animale et humaine. Cette section, en fait, elle a accueilli dans les années 70 des contributions de chercheurs qui vont fonder véritablement et ensuite construire le champ des recherches en biologie animale et humaine, en interaction entre l'homme et l'animal, interaction entre l'homme, l'animal et l'environnement. Donc, champ de recherche qui a été publié dans la revue à travers de chercheurs comme Robert Hind ou bien Richard Dawkins aussi à l'époque, et qui était en fait dans les années 70, au début des années 70, quand la revue a vraiment commencé à s'intéresser aux contributions de ces jeunes chercheurs, puisqu'à l'époque ils étaient jeunes, maintenant ils sont established, mais ils étaient jeunes à l'époque, donc ceci, c'était bien en avant une célèbre controverse qui a soulevé beaucoup de polémiques en 1975 avec la parution de l'ouvrage de Edward O. Wilson qui s'appelait Sociobiology, The New Synthesis. Cette controverse issue de l'ouvrage de Wilson a perduré au fil des années. Et SSI a également, au fil des années, s'est attaché à publier les contributions d'auteurs qui travaillaient sur ce thème et éventuellement les débats. Donc, une fois de plus, on voit que SSI a été à la pointe, non seulement dans l'interdisciplinarité, puisqu'on accueillait des contributions de chercheurs de disciplines différentes, mais à la pointe de thèmes de recherche qui n'étaient pas abordés au sens général, et encore moins en France. Cette tendance à publier des recherches en études animales et humaines a perduré jusqu'à récemment, puisque Dominique Lestel, qui est chercheur à l'École normale supérieure et également au Muséum d'histoire, professeur, non seulement chercheur, mais professeur à l'École normale supérieure et au Muséum national d'histoire naturelle, a continué à alimenter, entre guillemets, le flux d'articles de la revue, et en particulier, il n'y a pas si longtemps, en 2000, j'ai oublié de noter la date, tant pis, mais en tout cas dans les années 2000, a publié, a dirigé un numéro spécial qui s'appelait « Ethology and Ethnology, the new synthesis », à savoir éthologie et ethnologie, la nouvelle synthèse, abordant à nouveau des thèmes qui n'avaient pas été abordés ni en France ni d'ailleurs dans d'autres lieux de publication. Alors, comme deuxième exemple de ces thèmes de recherche que l'on ne trouvait pas dans les revues mainstream et que SSI s'attachait à publier, non seulement pour les faire connaître, mais aussi pour donner leur chance, car ça a toujours été un peu la philosophie de la revue, de donner leur chance à des jeunes chercheurs qui ne trouvaient pas nécessairement, étant donné justement des thèmes de recherche peut-être un peu à la marge, qui paraissaient un peu... bon, on va dire étrange, ne trouvait pas de débouché de publication dans des revues traditionnelles, established, etc. Donc, dans cet ordre d'idées, je pense toujours dans les années 70, mais cette fois vers la fin de la décennie 70, à des publications dans le cadre de la rubrique de la revue qui s'appelait Anthropology of Food, anthropologie de l'alimentation. Alors le but, en fait, à l'époque, c'était Igor Degarine, ethnologue spécialiste des Barouya en Afrique, qui avait eu l'idée avait proposé à Clemens Heller d'ouvrir ce champ et de recherche et de publication. Et l'idée était de créer un pont, en fait, entre les sciences biologiques et les sciences sociales. Une fois de plus, on retombe sur l'interdisciplinarité à une période où ça n'était pas si évident. Donc, il s'agissait de faire dialoguer entre eux, en fait, des chercheurs de disciplines différentes intéressés par les thèmes de l'alimentation et de la nutrition sous divers angles. Il n'y avait pas ça n'était pas restrictif. L'idée de les faire dialoguer avec des chercheurs dans différentes disciplines de sciences biologiques, donc de sciences dites exactes, dures. De les faire dialoguer entre eux, donc. Et de trouver ou d'instaurer une espèce de terrain d'entente pour des disciplines aussi quand même différentes que la nutrition, l'écologie, l'anthropologie biologique et sociale, l'économie, la sociologie, la psychosociologie, la sémantique, l'histoire, etc. Il y avait donc une grande interdisciplinarité et une volonté véritable de faire dialoguer les disciplines entre elles. Donc, là, on assiste à nouveau à la démonstration de ce que dans l'ADN de la revue, non seulement il y a les études novatrices, la ligne de publication d'études qui sont à la pointe, forefront of research, vraiment à la pointe de la recherche, et la ligne d'interdisciplinarité. Plus récemment, la revue a publié deux numéros spéciaux dirigés par Saadi Lalou, psychologue social, qui a dirigé le laboratoire de psychologie de la London School of Economics pendant plusieurs années. Et ces deux numéros étaient sur Cognitive Technologies, sur les technologies cognitives. Alors, une fois de plus, la revue a fait, à l'époque où ces numéros sont parus, preuve d'un avant-gardisme, entre guillemets, car c'était des thèmes qui n'étaient absolument pas traités encore dans les publications en France, et c'était des thèmes en même temps qui étaient des hot topics pour l'époque. L'idée principale, c'était que les nouvelles technologies de l'information et de la communication et le numérique étaient en train de permettre un espèce de monitoring intégral de l'activité humaine, bien au-delà de ce qu'avait pu imaginer George Orwell dans son ouvrage de science-fiction. L'idée était donc de mettre en lumière ce en quoi ces technologies nouvelles pouvaient influer sur le devenir humain, mais également de donner des recommandations aux concepteurs, afin des recommandations de bonnes pratiques. Et en ce sens, la revue retrouvait une de ses lignes qu'elle affectionne, qui est de vouloir s'intéresser quand même également aux retombées pratiques et de ne pas rester de la recherche et de ne pas rester simplement dans le théorique. Voilà. Donc, autre thème à nouveau récurrent, espèce de fil rouge de la revue, ce sera, et ça a été, de publier des auteurs clés dans des domaines conceptuels extrêmement importants et de suivre les développements de ces domaines sans être trop perfectionniste, du début jusqu'à la fin, mais en tout cas du début de l'émergence du domaine de recherche jusqu'au développement, jusqu'à l'époque où les recherches sont publiées. Alors, ça a été le cas de la série en particulier sur les émotions. Cette série a été initiée en 1900. Ah, je croyais avoir relevé les dates, mais bon, si, 1985 a été initiée en 1985 par deux chercheurs assez éminents. L'un est le philosophe Jon Elster, norvégien, professeur au Collège de France aujourd'hui. Le deuxième est le psychologue Klaus Scherrer, qui a dirigé pendant très longtemps et dirige encore le laboratoire de recherche sur les émotions qui se trouve à Genève. Donc, le premier numéro de cette série, voulant témoigner du développement de la recherche sur les émotions, a été donc publié en 1985 et il était sur le thème de la rationalité et les émotions. Ce thème des émotions, sous un aspect ou sous un autre, a parcouru la revue jusqu'en 2014, donc jusqu'encore récemment, où nous avons publié un numéro spécial dirigé cette fois par un jeune chercheur qui s'intéresse aux émotions. Donc on retrouve à nouveau l'idée favoriser les jeunes chercheurs tout en continuant à tout en continuant les grands axes qui ont traversé la revue. Ce numéro, qui a été dirigé par Martin Aranguren, était sur l'agir des émotions. Donc, on peut dire que, en ce qui concerne le thème des émotions, SSI des émotions au sens large, SSI a été à la fois témoin et acteur dans la revue. Alors, je pourrais donner encore d'autres exemples de ces lignes de force de la revue, novatrice, interdisciplinaire, originale, etc. Bon, ça n'est pas le cadre dans une vidéo. Je renverrai, il me semble, en tout cas, me semble-t-il, je renverrai les personnes qui sont intéressées au site de la revue, étant donné que les publications ont été numérisées depuis l'origine, ou en tout cas 1961. Bien évidemment, les bulletins du temps du CISS n'ont pas été numérisés, car il n'en existe même pas une collection complète, seulement quelques exemplaires en néoté. Mais la revue a été entièrement numérisée de 1961 jusqu'à nos jours. Donc, on peut retrouver absolument le panorama des publications en se référant au site de la revue.